y a beaucoup d'angles sous lesquels aborder cette parabole. J'aimerais avec vous ce soir méditer sur un aspect de la parabole qui n'est pas souvent mis en valeur, c'est la question de la colère. Et on comprend. Vous vous rappelez donc la parabole, je viens de lire, au début on dit un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent pour la journée, très bien, et puis au fur et à mesure, ça, et ceux qui arrivent à 5 heures alors que le travail termine à 6 heures, on dit aussi un denier. Hein, sous le cagnard, on imagine, en Terre Sainte, tout, travailler la vigne avec les cailloux, etc., c'est physique. Et on comprend très bien la récrimination, il y a de la colère dans cette parabole, il y a de la colère. Parce qu'il dit, comment lui qui a fait qu'une heure, il touche autant que moi qui ai fait toute la journée. Que faire de notre colère? Que faire de notre colère? Premièrement, on peut la définir d'une certaine manière, la colère. La colère, c'est face à quelque chose de présent qui nous paraît mauvais. Face à un mal qui est présent. Je suis en colère face à quelque chose, à une injustice. Et là, par exemple, typiquement, au regard humain, c'est une injustice. Et donc, de dire, cette colère-là, elle est face à un mal présent. Ça peut être face à une personne qui me manque de respect, ça peut être face à quelque chose, d'une manière ou d'une autre, qui m'atteint. C'est une émotion, la colère. C'est une émotion. C'est une émotion, mais c'est aussi un péché capital. Vous vous rappelez ça, les péchés capitaux. Les péchés capitaux, c'est ceux qui sont à la tête d'autres péchés. Dans ce sens-là, ils sont capitaux, c'est-à-dire capus capitis en latin, c'est la tête. Hein, ce n'est pas forcément des péchés très graves, mais c'est des péchés qui génèrent d'autres choses. Par exemple, la colère peut générer la violence, voire l'homicide. Hein, la colère peut générer le mensonge, etc., etc., le vol, la vengeance. Et cette question de la colère, elle est souvent abordée, j'allais dire, du côté négatif. Mais peut-être que ce serait bien de donner un autre éclairage que ce côté pécamineux. Et s'il y avait dans la colère, dans nos colères, quelque chose de positif? Si, au fond, c'était comme des formes d'indignation. Parce que là, je trouve que c'est presque... il est indigné. Indigné en disant, mais Seigneur, en tout cas Maître, voilà, tu donnes, tu n'es pas juste. Alors on verra ensuite la suite de cette parabole, tu n'es pas juste. Vous avez un exemple de la colère de Jésus, évidemment, on se rappelle tous l'épisode, avec le marchand et les marchands du temple. Vous faites de la maison de mon père une maison de commerce. Indignation. Donc il y a de l'indignation qui va faire que cette indignation, cette colère qui s'exprime par exemple dans le cadre des marchands du temple, où on voit des personnes qui ont vécu de leur colère est parti tout un mouvement de changement de société. Bien sûr, on pense à l'Afrique du Sud avec l'apartheid. C'est la colère d'un homme qui a dit « je vais m'opposer à ce système ». Et c'est souvent comme ça, face à des dictatures ou des réalités injustes, des personnes qui, on voit maintenant en Biélorussie, il semblerait que ce soit compliqué, il y a de la colère intérieure. Et cette colère, elle est source d'énergie. Elle est source d'énergie parce que, d'une certaine manière, elle veut s'opposer au mal qui est présent. Et quelqu'un qui ne se met jamais en colère, à quoi tient-il ? À quoi tient-il vraiment? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? On se met en colère parce qu'on veut défendre des choses qui nous sont des valeurs, des personnes qui nous sont chères. Mais celui qui jamais se met en colère, à qui on peut tout dire et piétiner toutes ses convictions, mais a-t-il seulement des convictions? Simplement, nos colères ne sont pas toujours le fruit d'une forme de révolte contre un mal présent, c'est parfois le fruit de notre propre sensibilité et voire susceptibilité. Et donc c'est un discernement à faire dans nos colères. Est-ce que c'est un bien que je vise en me mettant en colère parce pour face au mal présent, pour atteindre un bien objectif pour tous, Ou alors c'est juste ma sensibilité qui est froissée, et du coup, je monte sur mes grands chevaux et je veux je veux me défendre. Parce que bien souvent, les personnes comme ça, colériques, c'est des personnes très sensibles. C'est plutôt d'une certaine manière une forme, en tout cas quand c'est lié aux émotions, à la susceptibilité, c'est une forme de fragilité. Une personne susceptible qui se met en colère, elle se fragilise. Alors que si la colère est mue par l'indignation et par l'amour du bien, alors ça, cette colère-là, elle n'est pas du tout du même ordre. Elle rend plus fort. Donc, c'est intéressant de dire qu'est-ce qui, de réfléchir dans nos colères, qu'est-ce qui peut pouvoir. Il y a un discernement à faire entre indignation et susceptibilité. Mais en tout cas, c'est bien de pouvoir l'exprimer. Et parfois, dans nos cultures, je trouve, on n'a pas forcément l'occasion d'exprimer sa colère. Parce qu'on voit ça justement comme quelque chose de mauvais. Mais la question, c'est que parfois cette colère, elle se retourne contre vous. Elle se retourne contre vous parce que, la personne qui n'exprime pas sa colère, ça peut même générer, je lisais un livre récemment, des maladies, ce qu'on appelle psychosomatiques, des ulcères, et ça peut aller très loin, du corps qui se retourne contre lui-même. Donc faisons assez attention à ça. Et ayons peut-être un certain discernement, une certaine manière de voir qui n'est peut-être pas la manière de voir habituelle. Mais dans la parabole qui est là, il s'agit d'autre chose. Le Seigneur, oui, quelque part, se met en colère, mais plutôt l'homme qui a été salarié se met en colère face à la bonté de Dieu. On peut être en colère contre Dieu. C'est très fréquent, ça. Est-ce qu'au fond, le Seigneur, parfois, est-ce qu'il n'est pas le seul à pouvoir écouter nos rages, nos violences? Est-ce que dans la prière, ce n'est pas le seul qui, tout en restant là, est capable de subir nos coups de grisou? Hein, c'est ça aussi, c'est à travers ça, dit. Je suis celui qui est capable d'accueillir. Dans l'Écriture, il est dit « La colère des hommes te rend gloire ». C'est étonnant, hein ?« La colère des hommes te rend gloire quand les survivants te font cortège. La colère des hommes te rend gloire. » Ça m'a toujours interpellé, c'est dans les psaumes, quand on chante ça à l'office. Mais est-ce qu'au fond, le Seigneur n'est pas le seul à accueillir, à pouvoir recevoir toute forme de colère, toute forme de violence? Évidemment, on pense à la passion. Mais quand j'ai médité sur ce texte, je me suis dit, s'agit-il vraiment de plusieurs personnes ou de la même personne à différents stades de sa vie? Et j'opterai, en tout cas, c'est une interprétation que je propose, de voir cette parabole comme si c'était une seule personne, mais qui est prise dans les différentes étapes de sa vie, qui est prise dans sa jeunesse, au matin de sa vie, dans la vie adulte en tout cas, avec la force de l'homme qui peut travailler toute une journée, etc., qui est pris ensuite au midi de sa vie, dans l'âge adulte de la maturité, et qui est pris ensuite à l'aube, disons à la fin de sa vie, quand ses jours terminent, quand la lumière bien baisse, au soir de sa vie. Et c'est intéressant de voir, au fond, ces états d'âme, ces états de l'âme, que bien souvent dans la jeunesse, on peut avoir ce côté colérique peut-être plus fort. Là encore, il y a des tempéraments colériques, on ne choisit pas toujours, mais on peut toujours choisir de demander pardon. Il y a des personnes qui sont colériques, c'est vraiment. Ils ne contrôlent pas du tout ça. Mais si le premier geste vous a échappé, que le deuxième, qui est de demander pardon, parce que c'était de la susceptibilité mal placée, celui-là, qu'il ne vous échappe pas. Et donc, C'est vrai qu'il y a des personnes, parfois la personne, le jeune, etc., se met en colère, monte sur ses gardes. Et puis ensuite, c'est intéressant, après, si c'est la même personne, du coup, progressivement, il y a un appel qui est fait à d'autres choses dans nos vies, et il est dit, je te donnerai ce qui est juste. Le premier, celui qui a été appelé le matin, tôt, on lui a donné une somme d'argent, on lui dit, on te payera tant. Celui qui a été appelé à la troisième heure et à la sixième heure, etc., ben, celui-là, on lui dit, on donnera ce qui est juste. Et celui qui est appelé en dernier, il ne demande rien. Et je me suis dit, tiens, ça c'est l'évolution d'une âme. L'évolution d'une âme qui, dans son contact avec le Seigneur, a besoin de marcher donnant, et fait valoir ses droits auprès du Seigneur, et dit, voilà, ça c'est pas juste, et manifeste sa colère, et puis qui progressivement s'apaise avec l'âge, et qui, au soir de sa vie, ne met plus de conditions. Donne-moi seulement de t'aimer. La belle prière d'Ignace de Loyola, donne-moi seulement de t'aimer, qui offre sa vie sans savoir ce qu'il retournera, ce qu'il lui reviendra. Et je voudrais lire cette prière et qui lui dit au fond au Seigneur, prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, donne-moi seulement de t'aimer, reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné, à toi Seigneur je le rends, donne-moi seulement de t'aimer, tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et c'est certainement avec cette prière que la personne qui a été appelée en dernier, ou ce qui en nous a répondu en dernier à l'appel du Seigneur, on peut aussi le voir comme ça, on se donne au Seigneur progressivement, on ne donne pas forcément tout d'un bloc, on ne dit pas d'entrée de jeu, tout est à toi, dispose-en. Parce qu'il y a encore en chez nous une peur de Dieu. Mais quand l'âme a été travaillée par la grâce, quand le cœur s'est rapproché du Seigneur et a répondu aux différents appels selon les différentes étapes de nos vies, que ce soit à l'aube, que ce soit en plein midi ou au soir, eh bien, à un moment donné, il y a comme un lâcher prise. Il y a comme une remise de nous-mêmes, comme un apaisement. Alors, je trouve que cette parabole, elle est riche d'enseignements. Oui, elle nous fait penser que la colère est quelque chose parfois de bon, parce qu'elle produit un bon fruit, parce qu'elle est là pour défendre un bien, et c'est de l'indignation. Mais on ne peut pas vivre et traverser sa vie que dans la colère. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être... Le premier signe qui montre que votre colère est en train de s'apaiser, c'est que vous renoncez à vous venger. C'est le premier signe. Et ensuite, il y aura d'autres signes dans la réconciliation qui progressivement montreront que votre cœur s'apaise. Vous, par exemple, vous pensez à l'autre paisiblement. Vous ne lui souhaitez pas du mal. Vous vous attristez, au contraire, quand il subit une injustice. Et vous vous réjouissez quand quelque chose de bien lui arrive. Vous voyez, c'est des signes que la réconciliation, le pardon est en route. Et donc le Seigneur nous dit, voilà, c'est certes ça peut être une étape de nos vies, mais à un moment donné, il y a comme à adopter sa colère, à l'apprivoiser. À l'apaiser. Et comment est-ce que je l'apaise ? C'est en la remettant. En la remettant au Seigneur, C'est ce que fait d'une certaine manière ce serviteur qui dit et remet au Seigneur sa colère. Parce que je remets cette colère-là, le Seigneur peut me donner par sa grâce et par aussi mon travail spirituel et par ma confiance en lui, peut me donner cette paix à laquelle j'aspire. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Amen.